France Musique. Open Jazz, Alex Dutil, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mes chers deux invités du Quatuor Ébène, Raphaël Merlin et Pierre Colombet.
Bonsoir.
Vous êtes bien installés ?
Bonsoir, très bien.
Très très bien.
Vous avez de la veine, je suis en pensée avec vous parce que je visualise évidemment totalement le studio. Alors figurez-vous, Raphaël et Pierre, qu'on va rester en famille du côté de Beethoven qui vous a beaucoup occupé. Avec l'intérêt du trio belge Acamoun, saxophone, basse et batterie, pour l'opus 111 de Beethoven. Et du coup, ils ont mis les bouchées doubles pour ça, et ils se sont entourés de trois invités, en plus de leur trio habituel. Fabien Fiorini, le pianiste qui les avait déjà aidés sur un Scarlatti il y a 5 ans. Et puis, il y a un chanteur d'origine congolaise qui s'appelle Freddy Massamba et un accordéoniste portugais, João Baradas. Et tout ce petit monde a trouvé que l'opus 111, c'était une merveille de créativité rythmique. Ils ont même dit que ça annonçait le jazz. On écoute et vous direz après si c'est vrai.
Bango, you're the one.
Comme le B de Beethoven, évidemment. Fabrizio Cassol a composé cette pièce en s'inspirant d'extraits de l'opus 111 de Beethoven. Fabrizio Cassol au saxophone alto, avec Michel Azzigiorgio à la basse Fender, Stéphane Galland à la batterie, Freddy Massamba à la voix et Fabien Fiorini au piano. C'est le trio Acamoun élargi que j'avais envie de vous faire écouter à vous deux, membres du Quatuor Ébène, évidemment, pour avoir votre réaction. Pierre Colombet, je ne sais pas lequel des deux a envie de réagir. Est-ce que je vais me faire assassiner pour cause d'hérésie?
Alors, par nous, jamais. Jamais.
Ah non, on s'est régalé.
Non, c'est une très très bonne, très belle découverte. C'est impressionnant. Je trouve que la rythmique là, ça, il y a un son d'enfer. Ça joue. Ça me fait penser d'ailleurs à un album de Michel Portal, Minneapolis, où le batteur qui faisait, je pense, 2 mètres de haut et 2 mètres de large était imperturbable. Et là, avec la basse électrique et quand même ce côté acoustique et tribal, c'est magnifique, hein, je trouve vraiment.
C'est l'universalité de Beethoven d'une certaine façon. Hein.
Exactement.
Enfin là, il a quand même pris son tarif parce qu'on l'a pas reconnu tout de suite. Hein.
Mais il a été cité au milieu.
Oui. Merci pour la citation parce que je me suis demandé quand même. Mais zut, l'opus 111, c'était pas une sonate pour piano. Je croyais me rappeler quelque chose. Et donc, c'est cette chose-là qui a servi de pattern en fait, enfin qui est revenu comme un riff perpétuel. Mais ils ont quand même bien bidouillé parce que la métrique est à 15, enfin à 7,5 au lieu.
Donc cette espèce
15 ans. Et du coup, on a toujours un peu l'impression de trébucher. Ça entretient vraiment le groove aussi. C'est assez... c'est vachement bien, on s'est régalé.
Ah oui, c'est un mouvement, il y a un mouvement continu, quoi.
Ouais.
Et bien, écoutez, si ça vous a plu, on va remettre le couvert avec un deuxième extrait de ce disque qui est sorti chez Out Here et qui s'appelle donc Opus 111, signé à Camoun. Cette fois-ci, ils vont accueillir l'accordéoniste portugais, João Baradas, et ça s'appelle She Talks to Beethoven. Talks to Beethoven, extrait de l'opus 111 du trio Akamoun, Fabrizio Cassol au saxophone alto, Michel Adzi-Georgiou à la Fender Bass, Stéphane Galland à la batterie, Joao Baradas à l'accordéon et Fabien Fiorini au piano. Pour Raphaël Merlin et Pierre Colombet, j'imagine que vous y retrouvez le côté organique très puissant de Beethoven, même s'il y a une immense distance évidemment.
Bah oui, organique et puissant, ça me parle. Mais c'est vrai que là, j'avoue, j'aurais pas reconnu qu'il y avait une Beethoven à la source de l'inspiration.
Mais si vous le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, les musiciens d'Akamoun.
C'est sûrement vrai, parce que Beethoven a un pouvoir obsessionnel qui s'empare un peu de n'importe qui. Hein. Il suffit de tremper un orteil dedans et parfois on est entièrement noyé. Donc c'est... Mais c'est vrai que c'est très... C'est très au fond et c'est très centré, c'est très compact. On se faisait la réflexion avec Pierre, qui est un grand ingénieur du son à ses heures perdues, que le panoramique était assez resserré et qu'on prend un peu en voix centrale comme ça, cette espèce de son de groupe super soudé. Ouais.
Alors ils ont pour vous qui fêtez vos 20 ans cette année, eux ils en sont presque à 30. Ils se sont créés en 92
oui,
à Akamoun.
Mais ils sont que 3.
Alors, les trois, et puis ils ont deux invités. Et voilà. Et vous voulez dire que au bout de sur les 10 prochaines années, vous avez laissé tomber l'un des quatre ?
Non, non, mais je sais pas, je plaisante, mais ça m'a l'air facile de rester à trois. Même pendant 30 ans.
Vous qui aviez donné Brad Meldo en playlist à Denisa Kershova en milieu de journée, ça fait exactement la même durée, 28 ans qu'il travaille avec le même bassiste, Larry Grenadier.
Ouais. Qui est excellent d'ailleurs. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a passé, Unrequited.
Unrequited, oui.
Ouais, le solo de Larry Grenadier, on le connaît par cœur en fait. Mmh. Pour moi, les bons solos se reconnaissent là. Quand on peut les apprendre par cœur en 2-3 écoutes, c'est que vraiment, il y a quelque chose de naturel qui se produit. C'est une fabrique à mélodie, quoi. Donc, moi, je trouve ça.
Entendais tout à l'heure, tous les deux, parler de la voix, du fait que vous chantiez aussi quand vous travailliez, quand vous répétiez. Là, la musique qu'on vient d'écouter, elle a toujours cet aspect hyper mélodique. On peut l'imaginer vocalement aussi.
Oui, c'est vrai. Et puis incantatoire aussi. Oui, on a l'impression d'une prière africaine. Moi, c'est marrant, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même très... ça me faisait penser aussi, et je ne sais pas si vous... Vous vous souvenez de Jim Jarmusch et Broken Flowers, ce film dans lequel Bill Murray écoute dans sa voiture en permanence du jazz éthiopien. Et c'est marrant, ça m'a fait penser à ça en l'écoutant. Là, j'ai l'impression d'un jazz qui vient vraiment d'Afrique hein, là, quand j'entends ça.
Il y a un côté trans, sous-jacent.
Oui, tribal et trans, ouais. Oui.
Pourtant, ça vient de Bruxelles, donc c'est ça.
Et en Belgique, il se passe tellement de choses.
Bah, c'est une ville de rencontres, Bruxelles. Hein. Il y a beaucoup de communautés qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, Akamoun, le trio belge s'appelle Akamoun parce qu'ils ont rencontré, évidemment, des pygmées Aka. Ils sont allés en Afrique à plusieurs reprises. Ils ont parcouru le monde. Ils se sont très souvent, comme ça, inspirés des musiques qu'ils trouvaient sur place. Est-ce que vous, au cours de vos voyages, vous faites cette expérience d'aller écouter des musiques traditionnelles du pays où vous êtes?
Bien sûr, quand on peut. Parce que très souvent, vous savez, on descend de l'avion, on va répéter. C'est pas évident. Mais quand on a l'occasion de rester, oui, je me souviens par exemple d'un voyage en Inde où on a entendu ce groupe de musique indienne en plein air sur un podium comme ça. C'était absolument extraordinaire. Alors on essayait de comprendre quelle était la mesure, etc.
Bon, on a jamais réussi. J'ai vu que vous étiez bon en calcul tout à l'heure.
Mais une fois en Norvège aussi, Trondheim, il y avait un concert le soir qui était une sorte de scène ouverte. Ça se succédait et j'ai entendu Chris Stout et Katrina McKay qui sont devenus des partenaires réguliers. Eux, ils jouent, ils jouent violon et fiddle quoi, et harpe celtique en duo et ils sont venus jouer avec nous. Depuis, on a fait 5 ou 6 concerts avec eux dans des arrangements de composition à eux en fait qui sont vraiment
le quatuor plus eux deux.
Voilà, musique des Shetland et voilà, ça fait partie des rencontres comme ça qui nous donnent aussi vachement d'oxygène, ça nous fait respirer. C'est idiot à dire, mais dans la musique la plus élaborée, qui est celle qui est écrite, entièrement écrite, et qui est celle qu'on appelle vulgairement les chefs-d'œuvre de la musique classique, mais en fait, tout ça, ce sont que des mots. Mais c'est vrai qu'on a cette exigence en face de nous, qu'on doit se mettre au niveau. Et le grand danger, je crois, dans lequel beaucoup de musiciens peuvent tomber, c'est de perdre cette respiration qui est naturelle, qui est organique et qui vient pourtant tout naturellement dans n'importe quel chef-d'œuvre accompagner la chose. Et si on perd ce souffle, on la fige et on l'académise, entre guillemets. Et donc ces incursions dans d'autres répertoires nous ont toujours permis de reprendre un peu de fraîcheur. Après, de retour avec Beethoven, ça se passe mieux, hein, je peux vous dire.
Ah oui, vraiment.
D'ailleurs, sans Open Jazz ce soir, ça se passerait moins bien, c'est pareil.
Bon, mais vous reviendrez, vous allez d'ailleurs revenir dans un instant.
Open Jazz, France Musique.
Ben oui, on va écouter le Quatuor Ébène en version jazz, ou en tout cas en cousinage jazz. Vous avez, entre autres, expérience, on va en écouter une autre après, mais réaliser un album avec Michel Portal, dont France Musique était partenaire d'ailleurs, qui s'appelait Eternal Stories. Ça s'était fait comment, cette rencontre avec Michel Portal?
Oh, elle date de longtemps. C'est un ami, Michel. On adore Michel. On se voit pas assez. D'ailleurs, lui-même disait, on se parle par vidéo interposée. C'est incroyable. Il devait faire un concert au Théâtre du Châtelet. Qu'il n'a pas fait à cause du virus, et on lui avait fait une petite vidéo où il disait « Ah là là, ceux-là, quand on va se revoir, on va sabrer le champagne. » Mais oui, Michel, on aimerait bien te voir. Voilà.
Bon, en tout cas, si vous comptiez vous retrouver aussi aux fêtes de Bayonne, c'est râpé pour cette année aussi. Hein,
malheureusement.
Lui donner rendez-vous pour l'année prochaine.
Voilà. Mais alors, où est-ce qu'on a rencontré Michel la première fois? Comment ça s'est fait?
Ferrare, je crois, en Italie.
Quintette de Mozart,
les Five Tango Sensations de Piazzolla où il avait le bandoneon,
oui.
Et le bis où on l'avait invité à jouer avec nous, Footprints de Wayne Shorter en bis, mais pour une salle comme ça, c'était un peu étrange. Et en fait, typique Michel, quoi, il s'est caché dans sa loge, on l'a perdu. Et après,
raison parce que le public était complètement froid. Là, oui, je sais pas ce qui se passait.
Du coup, on a joué.
Et Michel disait, mais qu'est-ce que vous pensez, les amis, les copains, qu'est-ce qu'on fait, on y retourne ou pas après la pause?
Voilà, et résultat, on le trouve pas pour le bis, donc bon, on va sur scène, on joue le bis, et après, c'est lui qui a trouvé le moyen de nous engueuler. Bah alors, fallait me dire, je serais venu avec vous. C'est Michel Portal dans toute sa splendeur.
Eh bien, voilà un titre qui est une de ses compositions qui le définit parfaitement, du coup, Solitude.
Thank you.
Solitude, c'est Michel Portal à la clarinette basse avec le quatuor Eben dans cet album que vous aviez co-signé qui s'appelait Eternal Stories, qui était sorti chez Erato et France Musique avait été partenaire de sa sortie. Un bon souvenir, Raphaël Merlin et Pierre Colombet ?
Absolument.
Des séances de studio, parce que Michel Portal peut être insupportable en séance de studio.
Oui, mais pas que en séance de studio. Hein.
On lui fait une bise s'il nous écoute.
Ah bien sûr. Mais alors, il faut quand même nommer Xavier Tribolet au clavier et Richard Herry à la batterie, qui ont été tous les deux très très investis dans la recherche de la couleur de cet album.
Xavier Tribolet, un autre Belge, voilà, on parlait de Belgique.
Voilà. Ah ben voilà, c'est l'un des thèmes de la journée. Et alors, les amis de Michel Portal et de Yaron Herman sont forcément mes amis, je vous le dis très sincèrement. Et cette rencontre avec Yaron Herman pour le disque Muse, vous qui êtes des contrebandiers un peu, qui sautez les frontières musicales, là vous êtes allé avec Yaron carrément encore plus loin en reprenant une chanson de Björk. C'était une idée d'Yaron ou c'était dans votre culture commune ?
Non, c'est sa faute à lui.
On connaissait la chanson, bien sûr, Isobel, oui, bien sûr. Mais on adore Björk, elle aussi est très éclectique d'ailleurs. Et Yaron s'est beaucoup intéressé aussi à reprendre de la pop et du rock en jazz. Et c'était son idée.
Et cet album était sorti sur le label Laborie, qui à l'époque avait un studio installé à la fondation Laborie à côté de Limoges. Vous étiez allé l'enregistrer là-bas, où il y avait un ensemble de musique baroque en résidence ?
Non, on est allé Nîmes, hein. On est allé dans un studio à côté de Nîmes, si je me souviens bien. Mais alors là, je ne peux pas vous dire, je ne me souviens plus du nom du studio malheureusement.
Bon, mais vous vous souvenez d'Isabelle et de Yaron Herman.
Ah oui, c'est ça, on était allé répéter à Laborie et on avait enregistré là-bas, oui, c'est ça. Ouais.
Isabelle. Thank you. Mais c'est qui groove le Quatuor Ébène sur cette coda avec Gérald Cleaver à la batterie et Matt Brewer à la basse. C'était Yaron Herman dans sa version du Isobel de Björk, le Quatuor Ébène sur le label Laborie dans l'album Muse de Yaron Herman. Dites-moi, tous les deux, Raphaël Merlin et Pierre Colombet, j'entends de votre part vraiment beaucoup de d'allant. Vous êtes pris par ce qu'on appelle le drive dans le jazz, ça. Il y a comme une locomotive et vous êtes joyeux là-dedans, manifestement.
Ah oui, on adore ça, hein, tout ce qui groove, tout ce qui swing. Et là, je me souviens de cette journée studio, ça fait plaisir de réentendre de ce titre. On avait quelques patterns comme ça qu'on avait décidé, puis on a un petit peu improvisé des bacs comme ça.
On sent que ça jubile.
Oui, on était très contents de faire ça, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Et Yaron.
Yaron, il est contagieux. Hein. C'est un vrai Covid à lui tout seul, celui-là. C'est une bête de scène, ce gars. Faut faire attention de ne pas être trop près au moment du concert, parce que. Il emporte tout le monde dans son sillage, mais c'est vraiment, ouais, ça fait beaucoup, très, ça fait longtemps, non ? C'était en quelle année ? 2008, un truc comme ça ?
Oui, 2007. Dans ces eaux-là, absolument.
On n'a pas eu l'occasion de rejouer avec lui depuis.
Et vous avez fait des concerts avec lui aussi ?
Ben, seulement deux, je crois. Même pas. Oui, c'est ça.
Hein. Oui, ça serait bien de se retrouver, oui.
Bon, ben, on lui fera passer le message quand il sera lui-même totalement déconfiné.
Ouais. on le salue, en tout cas.
Et dites-moi, le Quatuor Ébène ne pourrait pas s'intéresser à un compositeur de jazz, et comme il s'intéresse à Mozart ou à Beethoven.
C'est peut-être un futur projet, oui. Enfin, je ne sais pas. Moi, je m'étais dit que peut-être Charles Mingus serait intéressant à exploiter avec des cordes.
Ouais. Oui.
Oui. Et voilà, on connaît un très très grand contrebassiste jeune et très très bon à Los Angeles qui s'appelle Marlon Martinez, qu'on salue aussi. Et voilà.
Du coup, vous auriez envie de faire ça avec un contrebassiste
Oui, on s'était dit que peut-être, voilà, un quintet à cordes très roots comme ça, très acoustique, qui crache bien, quoi. Voilà, on s'était dit que peut-être que ça correspondrait bien au tempérament de Mingus, mais il y a plein d'autres projets potentiels, donc on ne sait pas trop encore.
Mais vous vouliez dire un compositeur vivant de jazz ou...
Non, pas forcément. Non.
Parce que sinon, c'est vrai que des collaborations avec des jazzmen à la fois auteurs et instrumentistes.
Et interprètes.
On en a fait pas mal. On se rappelle aussi au tout début avec Vincent Lecoing, on avait fait des choses qui étaient très prometteuses.
Vincent Perani.
Avec Vincent Perani. On a aussi des rêves. Effectivement, on est en contact assez rapproché avec Brad Meldo. On a un projet avec lui qui traîne depuis des années, mais forcément, son agenda est rempli jusqu'à 2045. Lui.
Parce que vous savez qu'il rêve de jouer au moins un quintet de forêt. Il est fou de forêt.
Il est très, très branché là-dessus. Donc oui, il y a des pistes.
Eh bien, voilà un avenir radieux qui s'annonce. On a des bonnes nouvelles sur France
Musique. Non, ce n'est pas des nouvelles, c'est des doux rêves qu'on partage.
Voilà, c'est bon. Je les prends pour des amorces.
On a aussi également notre nouvelle recrue, Marie. Enfin, nouvelle, c'est vraiment nouveau maintenant. Marie, qui est une fabuleuse chanteuse, qui connaît tous les chorus d'Ella Fitzgerald par cœur. Donc, voilà.
Écoutez, je vous propose d'écouter ce que le Kronos Quartet, vos collègues américains, avaient fait sur la musique de Bill Evans. C'est pour ça que je vous posais ma question saugrenue tout à l'heure. Et ils avaient eu la bonne idée d'inviter l'un des contrebassistes historiques de Bill Evans, qui était Eddie Gomez. Voici leur version du Nardis de Bill Evans. Le Kronos Quartet avec Eddie Gomez. Puis je vous libérerai après. Thank you. Nardis, la composition de Bill Evans, reprise par le Kronos Quartet dans leur album Music of Bill Evans, avec Eddie Gomez à la contrebasse. Raphaël Merlin, Pierre Colombet, le Kronos Quartet fait partie de vos héros, d'une certaine façon.
Oui, bah c'est des pionniers. Hein, d'ailleurs, ils vivent sur la côte ouest, hein, c'est exactement ça, c'est des pionniers. Et c'est des pionniers dans le domaine de la... Ben de l'extension du domaine de la pratique du quatuor à cordes.
Oui, ils ont même créé ce quatuor de Stockhausen, hein, dans deux hélicoptères, là, je crois.
Ah, hein. Non, c'est les Arditis.
Ah, c'est les Arditis,
ouais.
Ah bon,
il me semble.
Enfin, les Kronos l'ont fait, en tout cas.
Oui, c'est possible. Mais de toute façon, les Kronos, ils ont peur
de rien.
Ils ont
fait beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais. Vous voyez qu'on peut réaliser des rêves impossibles.
Oui, c'est vrai.
Hein, c'est vrai. Mais un quatuor à cordes, c'est vrai que c'est... Ça permet beaucoup de choses. C'est un petit peu le petit orchestre. Je pense qu'on peut se permettre beaucoup de choses avec un quatuor à cordes, mais ça demande du... Il faut travailler, quoi.
il faut travailler pour qu'on oublie la notion d'effort.
Ouais.
Ouais. Hein, ouais.
En tout cas, merci de nous avoir donné des ailes avec Michel Portal et Yaron Herman il y a quelques instants. Et puis, pour m'avoir tenu compagnie, Raphaël Merlin et Pierre Colombet, j'adore qu'on ait innové. En fait, enfin, une émission de radio où celui qui l'a fait est chez lui et les invités sont dans le studio.
Ah oui, j'ai pris votre siège, hein. Moi, je suis bien là. Hein.
Ouais. J'adore les mondes à l'envers. Ouais. Des fois, on aurait besoin d'élargir l'idée. Hein.
Bon, bah, la prochaine fois, on vient tous chez vous, alors.
Exactement.
Avec plaisir.
Je suis tout près du frigo, tout va bien.
Super.
Ah, super.
Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, on va se quitter avec... on va revenir à Bruxelles avec le Brussels Jazz Orchestra qui a proposé à l'un de ses trompettistes, Pierre Drevet, trompettiste français, de composer et d'arranger une musique. L'album s'appelle Échange. Il vient tout juste de sortir. C'est un des très beaux grands orchestres européens, le Brussels Jazz Orchestra.
Thank you.
solo du saxophoniste ténor Kurt Van Erck dans le Brussels Jazz Orchestra sur cette collaboration et cette composition avec de Pierre Drevet, le trompettiste. Claire Vaillant était aussi invitée, la vocaliste du groupe Lilananda que mène Pierre Drevet avec elle. L'album s'appelle Échange et c'est une nouveauté du label Lilananda. C'était un open jazz avec deux des membres du Quatuor Ébène. Vous les retrouverez tout à l'heure à 20h avec Clément Rochefort. Avec moi pour faire cet open jazz, Adelino Mello, Swedbou Corsa, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Demain, dans Open Jazz, la fanfare XP de Magic Malik.
À réécouter sur francemusique.fr.